À eux deux, ils ont une petite cinquantaine. Pauline est aussi blonde que Théo est brun, et tous les deux ont fait le choix de quitter un temps la France pour exercer leur métier, journaliste. Ils sont ce que l'on appelle dans notre jargon des correspondants, c'est-à-dire qu'ils rendent compte de l'actualité dans une zone géographique définie. Si vous écoutez Radio France Internationale, vous avez forcément entendu un jour leur voix.
Les moteurs de Taxi Brousse grondent pendant que les ouvriers s'activent au chargement des bagages. Départ imminent pour Mélodie, la jeune femme de 25 ans, son enfant au bras.
Les voûtes aux échoppes du mythique bazar historique d'Erbil, tout est calciné, tout est noirci, tout a brûlé.
Brandé slogans et cortège de partisans venus soutenir leur candidat, Doumougne, habitante du quartier, vaque à ses occupations quotidiennes.
Nous sommes ici dans une takia. C'est l'équivalent d'un couvent, d'un monastère soufi. Le soleil s'est couché depuis à peu près 2 heures, le jeûne du ramadan est rompu.
Je vous laisse chercher quel coin du globe ils nous font partager et je continue ma petite introduction. Cet épisode s'inscrit dans la lignée des épisodes coulisses de Témoins d'actu, ceux dans lesquels je vous en dis plus sur le travail de celles et ceux qui font RFI. Et il est né à la cantine de la radio, à Issy-les-Moulineaux, près de Paris, où j'ai croisé Pauline. Parce qu'elle était récemment de passage en France, et en la voyant, je me suis demandé ce qui l'avait poussée à faire le choix de la correspondance, loin de ses proches, de ses amis et de la rédaction où elle avait déjà travaillé 1 an. Mais je n'avais pas envie qu'elle me raconte seule ce choix et cette expérience. J'ai donc appelé Théo, nous aurons un homme et une femme. Théo qui, lui, sera bientôt de retour en France après 2 années passées... vous avez trouvé ? Pauline Le Troquier est à Madagascar, dans l'océan Indien, et Théo Renaudon au Kurdistan irakien, au Moyen-Orient. Et nous enregistrons cet épisode le 13 mai 2024. Pauline et Théo, bonjour.
Bonjour Alexandra.
Bonjour.
Alors je sais qu'en fait, vous ne vous connaissez pas, comme certains des auditeurs qui nous écoutent. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter en quelques mots ? Rien de personnel, évidemment, mais votre parcours, c'est lequel ? Pauline, par exemple, si tu veux bien commencer.
Alors, moi, j'ai 26 ans. J'ai grandi donc en France, à Angers, dans l'Ouest. J'ai fait mes études en France aussi, puisque j'ai étudié entre Bordeaux et Paris. Et puis, après 1 an d'alternance, tu l'as dit, à RFI, donc où j'ai en quelque sorte fini mes études, fini mon école de journalisme, je me suis installée à Madagascar, où j'habite depuis 8 mois maintenant.
Théo, tu as à peu près le même parcours ou pas ?
C'est à peu près ça, parce que... Alors moi, j'ai donc 23 ans. J'ai fait 1 an à Paris, à RFI, où j'ai fait des reportages et où j'ai présenté des journaux, notamment la nuit, avant donc de venir m'installer ici, à Erbil, au Kurdistan irakien. C'était il y a à peu près 2 ans. Et donc, depuis, j'officie au Kurdistan irakien et puis... un peu plus récemment au Kurdistan syrien.
Alors vous êtes tous les deux évidemment très jeunes. Est-ce que vous vous souvenez comment est née l'idée, votre envie de partir, de tenter cette aventure ? J'imagine que c'est une aventure, cette aventure de correspondance.
Pour mon cas, l'idée était présente, je dirais quand même depuis un moment, mais là où elle est vraiment née, c'est... à RFI, en fait, pendant mon année d'alternance. Ça a nourri un peu, moi, dans mon cas, cette envie d'être sur le terrain. Et puis, après une année d'alternance, c'est une des voies un peu naturelles pour plusieurs alternants. Donc, on me l'a proposé, mes chefs me l'ont proposé.
Quand tu étais à Paris, tu étais déjà au service Afrique.
Tout à fait. Alternance au service Afrique de RFI. Donc, l'idée, c'était de partir plus tôt dans un pays en Afrique. Je ne savais pas lequel. Et puis, l'opportunité Madagascar s'est présentée.
Dans mon cas, ça a été beaucoup d'abord, quand j'étais à Paris, à RFI, des écoutes d'anciens correspondants. Il faut savoir que à Paris, à Issy-les-Moulineaux, de nombreux journalistes sont des anciens correspondants. Et forcément, quand on les entend sur leur parcours, sur ce qu'ils ont vécu, forcément, ça donne envie. Donc, il y a eu cette envie-là. Il y a eu aussi une envie de faire du reportage à l'étranger, d'aller un peu découvrir ce qui se passait ailleurs, d'autres manières aussi de travailler, parce que faire du reportage en France et faire des reportages en Irak, c'est quand même pas la même chose. Donc, j'avais un peu envie de voir ce que ça pouvait donner. Et c'est comme ça que je suis parti. Je cherchais une correspondance où que ce soit. Et à la fin, c'est souvent des places qui se libèrent. C'est souvent des territoires qui sont pas couverts ou plus couverts à un moment. Donc il y a des besoins et c'est à ce moment-là que ça se décide. Quoi.
C'est le fait d'être venu travailler à RFI qui a provoqué cette envie, ou est-ce que lorsque vous êtes entré dans une école de journalisme, alors vous n'avez pas fait la même évidemment tous les deux, mais est-ce que vous saviez que quoi qu'il arrive, votre parcours professionnel, il se ferait forcément à l'étranger ?
C'était une envie en tout cas, moi j'y pensais, mais en tout cas c'est sûr que c'est pas Madagascar que je me serais imaginé 2 ans plus tard. Donc entre voilà, l'envie, la réalité, encore une fois, c'est quand même une question d'opportunité, et je suis d'accord avec toi Théo, on va dire évoluer dans la machine RFI, où non seulement on parle d'actualité internationale, mais en plus on côtoie des anciens correspondants, qui ont vraiment des souvenirs et l'expérience du terrain, ça accélère cette envie de partir, quoi.
Ça veut dire qu'on leur pose beaucoup de questions pour savoir comment ça se passe une fois qu'on est sur place ?
C'est des conversations souvent, souvent informelles, à la pause café, à la pause du midi, auprès de ses collègues de travail. Moi, j'ai vu aussi énormément de mes collègues au service Afrique de RFI, qui sont donc basés à Issy-les-Moulineaux, au siège, mais qui vont en mission, que je voyais disparaître pendant une semaine parce qu'ils allaient en RDC, au Cameroun par exemple, et puis qui me racontaient leur mission. Je les voyais monter leur reportage après avec des sons d'ambiance, avec tout ce qu'on peut avoir sur le terrain qu'on n'a pas à Paris et qui donne quand même envie.
C'est ça, et puis en fait, quand on rentre dans une radio comme Radio France Internationale, forcément, on a un peu d'envie de faire de l'international. Mais au-delà de ça, quand j'étais en école de journalisme, j'avais un peu l'image de faire de l'international, c'est pour la fin de carrière. C'est pour quand on a beaucoup d'expérience en Europe ou en France, d'un coup on peut partir. Alors qu'en fait, dans le système, ça se passe souvent différemment. Les premières fois que je suis sorti de France pour faire des reportages, j'ai rencontré des gens qui en fait étaient des correspondants, et en fait ils étaient beaucoup plus jeunes que ce que j'imaginais. En réalité, beaucoup de correspondants sont relativement jeunes, voire très jeunes. Donc en fait, ça devient réalisable. On peut devenir correspondant très jeune, et ça, en fait, on s'en rend compte surtout quand on commence vraiment à travailler pour des médias internationaux comme RFI.
Alors, je tenais quand même à préciser pour ceux qui nous écoutent que tous les deux, Pauline et Théo, vous êtes ce que l'on appelle des pigistes, hein, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en contrat à durée indéterminée, que vous êtes rémunérés au papier, au reportage, et que vous pouvez avoir plusieurs employeurs. C'est ton cas, je crois, Théo.
Oui, alors moi, je travaille au Kurdistan irakien pour 9 médias, dont 8 radios. Quand je vends un reportage à RFI, en fait, je le vends aussi à Radio-Canada, ou aux Belges, ou aux Suisses. Enfin, pour être rentable, en tout cas pour moi, dans mon cas, il faut que je puisse recycler, c'est comme ça qu'on dit, hein, recycler les reportages.
La précarité, c'est une question qu'on se pose, puisque vous n'avez pas de salaire fixe à la fin du mois. Est-ce que c'est un paramètre que l'on prend en compte lorsque l'on décide d'aller s'installer ailleurs, de travailler ailleurs ?
Dans mon cas, ça a été... on nous prévient, hein, quand les anciens correspondants... moi, j'ai eu la chance d'être un petit peu porté par l'ancienne correspondante à Erbil qui travaille à RFI, qui s'appelle Oriane Verdier. Je lui dis bonjour. Elle m'a vraiment beaucoup aiguillé sur tout ce qui était démarches administratives, le départ en correspondance, etc. Et puis, si on veut vraiment gagner beaucoup d'argent, en général, le correspondant, c'est sûrement pas le meilleur métier. Après... Il y a souvent ce schéma de se dire que quand même on vit des reportages qui sont quand même assez extraordinaires, et donc et qu'on fera pas ça toute notre vie. Et donc si moi je gagne pas des 1000 et des 100 pendant les 2-3 années que je peux faire en correspondance, eh ben c'est pas si grave. Mais effectivement, la précarité, ça touche énormément de correspondants francophones, pas que les correspondants pour RFI évidemment. D'ailleurs, avec RFI, on est plutôt bien lotis parce qu'il y a un vrai accompagnement. Mais c'est sûr que c'est un paramètre qui est très, très important. Mais ça dépend du pays dans lequel vous vivez, quoi.
Pauline, tu partages ce point de vue ?
Complètement. Tout à fait, Théo. C'est une question qu'on est obligé de se poser quand on choisit de partir. Dans mon cas, Madagascar, la particularité, c'est que c'est un pays qui est finalement assez éloigné des projecteurs de la presse internationale. C'est-à-dire que sur place, on est en fait très peu de correspondants étrangers. Il y a du travail pour tout le monde. Et il y a quand même toujours des choses qui méritent d'être racontées. Dans le cas de RFI, des sujets qui sont quand même très réguliers. Dans le cas de Madagascar, c'est une pige d'actualité par jour, c'est-à-dire un article, que ce soit reportage ou interview. D'autant que je suis arrivée dans une période de forte actualité qui est l'élection présidentielle, en pleine campagne en fait. Donc voilà, je savais que pendant quelques semaines et même quelques mois, j'allais avoir des piges importantes qui allaient m'aider à démarrer.
On va en parler, Pauline, puisque je disais au début que vous ne vous connaissez pas, mais vous avez ce point en commun, c'est d'être arrivée, donc toi Pauline à Madagascar et toi Théo au Kurdistan irakien, dans un moment de forte tension. Vous pouvez m'en parler ?
Alors dans mon cas, au Kurdistan irakien, de toute façon, c'est une zone qui est coincée entre l'Irak fédéral, la Syrie, la Turquie et l'Iran. Il y a toujours de la tension. Moi, il n'y a pas eu un seul moment depuis que je suis arrivé où c'est pas tendu. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé, on était en pleine révolte iranienne, avec donc cette jeune iranienne kurde, Mahsa Amini, qui avait été tuée par la police des mœurs, et donc il y avait eu tout un tas de révoltes. Et donc je suis arrivé, et il y avait des bombardements sur les groupes kurdes iraniens, qui étaient présents donc au Kurdistan irakien, donc à peine à 50 km d'Erbil, là où je me trouve. Donc très rapidement, après à peine un mois, en fait, on se rend sur les zones bombardées, donc forcément ça fait peur quand c'est la première fois de votre vie que vous vous retrouvez sur une zone à fort risque, et ben forcément ça fait peur. Mais finalement, ce risque-là, on est très accompagné, on en parlera peut-être. Et au-delà de ça, et ben, au fur et à mesure, on obtient une espèce d'expertise du risque. On commence malheureusement à s'habituer, parce que entre ce moment des révoltes iraniennes et aujourd'hui la guerre de Gaza et ses conséquences, où personnellement, moi, j'ai eu une base américaine qui a été bombardée à peu près tous les deux jours entre octobre et février. Bon, c'est des risques auxquels on est préparé, on s'y attend en s'installant dans des coins comme ça. Mais effectivement, au début, ça fait peur, ouais, ça c'est sûr.
Pauline, toi, tu es arrivée en pleine manifestation, c'est ça, de l'opposition, manifestation préélectorale ?
Ouais, c'est ça. Alors, au contraire de Théo, moi, la période de tension dans laquelle j'arrive, elle reste exceptionnelle pour un pays comme Madagascar. Mais effectivement, j'arrive et la première image que j'ai, c'est-à-dire que j'atterris et le lendemain, je pars en reportage donc suivre ma consoeur Sarah, qui est l'autre correspondante de RFI ici à Madagascar.
Et qui est déjà passée.
Et la première image que j'ai du pays, c'est donc Analakel, l'hypercentre de Tana, la capitale, où une manifestation d'opposition est empêchée par des militaires. À partir de ce moment-là, il y aura des manifestations quasi quotidiennement, jusqu'au jour de l'élection, donc le 16 novembre. Alors, elles sont pas toutes réprimées, mais je me souviens de l'une d'entre elles, effectivement, que je couvre à ce moment-là, réprimée donc par des tirs de grenades lacrymogènes. Très impressionnant d'arriver dans ce contexte très tendu. Je pense que journalistiquement, en tout cas, je le prends comme ça, c'est en quelque sorte une chance, puisque voilà, j'étais venue pour le terrain et finalement, j'ai pas d'autre choix que d'aller sur le terrain à ce moment-là, parfois dans des conditions qui font un peu peur, oui.
Est-ce que vos proches vous ont dissuadé de partir quand vous leur avez annoncé vos destinations respectives ?
Alors oui, au début, ils avaient vraiment peur et puis au final, on y va quand même. Et puis une fois sur place, on leur dit pas tout. Voilà, tout simplement, on les tient informés hein, quand même un minimum, mais on leur expose pas exactement à ce à quoi nous on est exposé sur le terrain, parce que je pense que la distance rend aussi les choses un peu encore plus flippantes en fait que quand on y est réellement.
Moi, pas du tout. Je pense parce que, encore une fois, Madagascar, c'est pas un pays où le contexte est systématiquement tendu. C'était exceptionnel. Après, le fait que j'arrive quand même en pleine présidentielle, que ça commence à chauffer. Ils n'étaient pas forcément rassurés à distance et pourtant je ne leur racontais pas tout. Moi, ils écoutaient quand même mes reportages, donc je ne pouvais pas tout cacher. Mais non, je n'ai pas été dissuadée et puis la période de tension n'a pas duré longtemps, donc je n'avais pas vraiment de quoi être dissuadée.
Bon, je retiens quand même que vous ne racontez pas tout à vos proches pour les préserver, c'est plutôt sympathique. Est-ce qu'au quotidien, le travail avec la rédaction à Paris, comment il se passe ? C'est vous qui proposez des sujets, c'est la rédaction en chef qui vous appelle, sachant que évidemment vous couvrez une actualité assez large, à la fois ce que l'on appelle nous l'actualité chaude et puis celle, on va dire, un peu plus froide, plus magazine.
Alors ça se passe en tout cas dans mon cas par mail ou par appel avec donc le rédacteur en chef du service Afrique. Je propose des sujets sur l'actualité chaude, donc l'actualité du jour, et puis on s'appelle, on en discute et puis on décide en fait de l'angle pour l'élément du jour. Et puis après les magazines, ça c'est autre chose, c'est encore avec un autre chef du service Afrique où là On se répartit, en fait, on va dire, les éléments chauds et froids entre l'autre correspondante de RFI et moi-même, quoi.
Théo, ça se passe de la même manière pour toi, parce qu'évidemment, la rédaction Afrique et la rédaction Monde à RFI, même si on vit tous ensemble, ce ne sont pas les mêmes.
Oui, oui, ça se passe vraiment à peu près de la même manière, c'est-à-dire que la plupart du temps, c'est moi qui envoie une proposition de sujet, mais ça arrive d'avoir des commandes. Ça arrive aussi des fois que des émissions, ce qu'on appelle les magazines à RFI, nous appellent pour nous demander un truc très très spécifique. Je pense notamment au reportage sur les soufis que vous avez diffusé tout à l'heure. Donc ça, c'était Religion du Monde. Ce genre de choses arrive, même si globalement, c'est plutôt moi qui propose.
Je m'interrogeais aussi de savoir, est-ce que c'est compliqué ou pas de rester motivé loin d'une rédaction ? Là, vous êtes tout seul, respectivement, dans vos pays. Vous ne pouvez pas échanger avec un collègue de bureau sur le choix d'un mot, par exemple, ou d'un son. Est-ce que ça, c'est compliqué à vivre ?
Alors c'est là que c'est sympa d'être à RFI, c'est parce que les correspondants de RFI fonctionnent aussi en réseau. Voilà, moi j'ai une consœur qui est à Bagdad, j'ai aussi un confrère qui est à Amman, on s'appelle quasiment tous les jours. Hein. Franchement, c'est pas une vie de bureau, hein. Loin de là, on est quand même dans la solitude. Tout ce qui est de la vie en rédaction, évidemment, qui en tout cas moi me manque énormément. Par contre, sur le choix du mot, sur les galères administratives, sur simplement le contact qu'il faut avoir avec des confrères, ça passe par des coups de fil.
Je te rejoins totalement, Théo. Moi, je trouve que le travail à distance, c'est quand même une partie pas facile de la vie de correspondant. Ça donne quand même une certaine liberté. On en parlait tout à l'heure sur les propositions de sujets. Voilà, c'est à nous de proposer, de prendre l'initiative, de parler de tel ou tel sujet. Ça, c'est quelque chose, moi, que j'apprécie beaucoup. Et on reste quand même assez entouré, soit par les chefs au siège à Issy-les-Moulineaux qui sont présents, soit par les confrères et consoeurs de la presse internationale, dans mon cas à Madagascar, qui, même s'ils ne travaillent pas pour RFI, vont quand même se rendre disponibles pour échanger sur le choix de, effectivement, de tel ou tel mot pour aider à trouver un contact, quoi. Donc on n'est pas tout à fait tout seul, heureusement.
Entre ce que vous imaginiez avant de partir, Pauline et Théo, et les premiers mois, les premières années qui viennent de s'écouler, est-ce qu'il y a beaucoup de différences au fond ?
Alors, personnellement, non. Moi, je pensais pas, avant de partir, pouvoir me sentir aussi vite, c'est assez personnel, hein, mais à l'aise et bien ici, professionnellement et personnellement, parce que ça va ensemble. Je me rappelle, moi, de mon vol de départ pour Tana, je me demande un petit peu ce que je fais. On est quand même un peu anesthésié, on se demande si on va pas faire demi-tour. Et puis, finalement, une fois arrivé, donc une fois qu'on découvre le terrain, je me sens... Et je ne l'explique pas, puisque je n'ai aucune attache, aucune accroche avec Madagascar, assez immédiatement bien. Et j'ai envie de, voilà, de raconter tout ce que je vois, d'autant que c'est un terrain, et ça, ce n'est pas vraiment une surprise pour le coup, très exigeant, vu la pauvreté et l'instabilité politique latente quand même ici à Madagascar.
Théo ?
Moi, en fait, j'avais beaucoup, beaucoup discuté avec l'ancienne correspondante à Erbil. Après, il y a un truc au début, je reviens là-dessus, hein, mais c'est un peu la peur un peu au début qu'on peut avoir en étant dans un pays comme l'Irak. On se dit bon, on est en zone rouge, on croise des gens en ONG qui vivent enfermés, alors que bah moi je suis tout seul, hein, je vis dans une maison, j'ai pas spécialement de sécurité, etc. Donc ça, la peur, mais la vraie, quoi, c'est-à-dire un truc où on se sent vraiment seul et où ça prend un peu aux tripes. Au début on l'a, et puis au final on s'habitue. Globalement, c'est un peu près à quoi on pouvait s'attendre.
Le ou les moments qui vous ont le plus marqué jusqu'ici, ce sont lesquels ?
Moi, là, comme ça, je dirais que au bout de 3 semaines dans le pays, je pars en mission du côté d'Antsirabe, c'était la 3e ville du pays au centre de Madagascar. Et je fais un reportage au marché aux zébus sur les attentes des éleveurs vis-à-vis de la présidentielle. Et en fait, pourquoi ça me marque, c'est que je réalise un peu... Là, quand je suis entourée de centaines de zébus et à peu près d'autant d'éleveurs, que je suis en fait à Madagascar, parce que c'est la première fois que je sors de la capitale, c'est la première fois que je sors de cette grosse séquence politique où les candidats sont pour la plupart francophones, ils ont des éléments de langage, ils sont capables de répondre à la presse. Et là, finalement, au milieu de ce marché aux zébus, je ne suis pas toute seule, hein, je suis accompagnée d'un confrère, Léo, qui m'aide pour la traduction à ce moment-là, mais je ne me fais pas comprendre. Ils sont très étonnés de me voir. Visiblement, il y a peu, voire pas du tout de journalistes qui viennent. Il n'y a pas d'étrangers qui rentrent ici. Donc j'ai un petit sentiment, j'avoue, d'insécurité pour la première fois.
Mais ce qui permet de découvrir aussi le pays dans lequel on travaille, Théo ?
Alors moi, donc, je reviens sur les révoltes iraniennes qui se passaient à 50 km de là où je me trouvais. Avec un confrère, on part rencontrer un jour pour un reportage un homme qui s'appelle Erfan Mortezaï, qui est le cousin de Mahsa Amini, qui est un résistant kurde qui s'était retranché il y a des années en Irak et qui défie un peu sur les réseaux sociaux le régime iranien et qui était devenu à ce moment-là une petite figure des révoltes auprès des Kurdes. Bref, on va l'interviewer et là il réclame l'asile politique à la France. Et donc on fait le portrait, on envoie le reportage. Il est écouté par notamment le consulat français qui décide de lui donner l'asile politique. Et donc au final, il se fait avec un laissez-passer rapatrié, si je puis dire, en France. On diffuse un mot quand même sur son témoignage, comme quoi il dit « bon voilà, merci à la France, je vais pouvoir continuer le combat en sécurité », parce qu'il recevait des menaces de mort, hein. C'est pour ça que la France lui a donné l'asile. Quelques jours après tout ça, on reçoit un message de l'ambassade de France qui nous dit « là, il y a des menaces sur vous qui pèsent par éventuellement des proxys iraniens ou des services secrets iraniens, là, il faut partir ». Il faut que vous mettiez au vert, hein, je reprends leurs mots, pour éviter tout risque d'assassinat, hein, c'était les mots. Et donc là, on prend l'avion et on se dit, aïe, ça fait 3 mois que je suis là, est-ce que j'ai pas fait une bêtise ? Est-ce que je vais revenir dans ce pays ? Est-ce que je vais pouvoir poursuivre la correspondance ? Au final, je suis revenu. Hein. 3 semaines après, on m'a dit, bon, bah, en fait, on n'a pas relevé de signaux importants. Mais à ce moment-là, on a très peur, on prend l'avion et on se demande si on va revenir. Et ça, c'était assez marquant, d'autant que c'était vraiment au tout début.
Et tu es donc resté 2 ans. Tu t'apprêtes là à rentrer, hein, Théo. Tu rentres à regret ou pas ?
Non, parce qu'en fait, au fur et à mesure, c'est des terrains qui sont compliqués et pourtant tout petits. Hein, le Kurdistan irakien, ça fait la taille de l'Aquitaine en termes de comparaison. Donc en fait, on commence à être identifié en tant que journaliste correspondant. Et donc, je pense que si je reste, je vais devoir renoncer à certains sujets. Et je pense que je vais être triste au bout d'un moment de ne pas pouvoir faire ce que je veux. Et donc je préfère partir à un moment où j'ai fait les reportages qui me plaisent réellement et partir serein, quoi, plutôt que de partir un peu en catastrophe, en me mettant en danger, en mettant mon équipe aussi locale en danger. Donc je pense que c'est le bon moment pour s'arrêter.
Pauline, tu restes encore un peu, alors tu as moins d'expérience que Théo en tant que correspondante.
Oui, moi j'avoue que je ne me vois pas du tout pour l'instant quitter Madagascar et puis au-delà de quitter Madagascar, rentrer à Paris, en tout cas pas tout de suite. Et voilà, je suis un petit peu piquée par le virus de la correspondance, je crois.
Merci en tout cas Pauline et Théo d'avoir pris le temps de me raconter tout ça dans Témoins d'Actu.
Merci à toi Alexandra.
Merci beaucoup Alexandra.
Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager. Il est disponible sur toutes les plateformes de podcast et je ne peux que vous encourager à aller sur notre application Pure Radio. Je vous dis à très vite.